Et donc, comme je vous le disais, on a le plaisir de recevoir François Germain. Donc, rebonjour François.
Eh bien, rebonjour.
Oui. Et déjà, François va nous dire qui il est. Tu es originaire de la région ?
Non, enfin bon, pas très loin. Hein. Je suis originaire de la région lyonnaise, où je suis resté ma première vingtaine d'années, disons. Et puis, je suis parti une quinzaine d'années dans le Midi par la suite. Et revenu dans la région lyonnaise jusqu'à finalement déménager à Voiron pour y installer ce projet.
Et pourquoi Voiron ? Est-ce que c'est juste les circonstances ?
Alors c'est vraiment les hasards de la vie, quoi, je vais dire, puisque je suis venu à Voiron rejoindre ma compagne.
D'accord.
Voilà. Et donc en fait j'étais plutôt motivé par ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de visiter ce local où je suis installé maintenant. Et là, les choses se sont déclenchées très vite, quoi. J'ai pris la décision de prendre ce local et, bon, peut-être une question d'âge aussi, mais je pense que ça a rassemblé beaucoup de choses en moi qui, d'un coup, se sont synthétisées à travers le projet qui se développe depuis 4 ans, quoi.
Et on a discuté en fait de la question, est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce que déjà tout petit, tu avais besoin de t'exprimer par l'art ?
Oui, bah, je pense que la créativité, elle avait besoin en effet de s'exprimer. Bon, petit, j'étais surtout très actif parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où je pouvais être finalement très libre. Et donc j'ai profité amplement de cette liberté. Tout en ayant des envies personnelles, en effet. Donc à l'adolescence, j'ai commencé à faire des sculptures en métallique. J'avais acheté un chalumeau à l'époque et j'ai commencé à taper dans de la ferraille sans connaissance préalable, hein, voilà. J'ai donc réalisé des choses à ce moment-là. Et puis c'est plus tard dans mon parcours que j'ai pris l'engagement de me déclarer artiste et donc d'essayer d'en vivre de manière professionnelle. Et cette notion d'engagement, elle est importante parce que c'est le début d'un parcours très exigeant, semé de toutes sortes d'embûches et dans lequel il faut beaucoup de constance pour persévérer et arriver à montrer son travail au public, quoi.
Oui, et d'ailleurs, en parlant de travail, j'ai vu que tu es un prototypiste créatif, ça veut dire quoi ?
Ouais, parce que, je suis donc autodidacte et en même temps, je vois bien qu'on est dans une période qui autorise toutes sortes de réalisations techniques. On a des outils de plus en plus performants, on a des... Et finalement, assez rapidement, ayant développé des compétences dans les matériaux composites, j'ai été sollicité par d'autres créateurs ou artistes ou designers pour réaliser des projets qui s'appuient un peu sur ces structures composites. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai élargi par la suite et qui a fait aussi une partie de mes activités, alimentaires. Le travail pour les autres, pour les aider à concrétiser leurs idées. Et avec cette spécificité de ces populations d'artistes qui sont que il faut arriver à intégrer non seulement des paramètres techniques et à imaginer des solutions, mais il faut aussi intégrer la pensée de celui qui est là et qui a des intentions précises.
Oui.
On n'est pas c'est pas juste créer des formes, reproduire des formes. Enfin, souvent, ce sont des problématiques qui sont plus complexes et qui intègre des intentions artistiques dont il faut tenir compte.
Et est-ce que c'est toi qui as choisi le nom des locaux, la théorie des espaces courbes ?
Oui, absolument. Oui. C'est un nom qui me trottait dans la tête depuis l'enfance. Mon père avait des livres, une collection de vulgarisation scientifique, donc qui s'intéressait à toutes sortes de domaines. Et dans un de ces volumes consacrés aux sciences, il y avait un chapitre qui s'appelait comme ça, la théorie des espaces courbes, et donc qui parlait un petit peu de la physique quantique,
ah oui.
de l'idée de que notre représentation de l'univers était pas une représentation immédiate, mais que voilà, s'appuyait peut-être sur le fait que la lumière peut-être se propage sur des lignes courbes et non pas des lignes droites. Mmh. Et donc ça modifie profondément notre représentation du monde. Et donc quand j'ai créé ce projet, je me suis dit, bah, après tout, de la même manière que les scientifiques tentent de réinventer le monde, les artistes font un peu ça aussi.
Oui.
Et donc, ça m'a paru approprié, à la fois poétique, évocateur, un peu intriguant, et puis finalement efficace, parce que maintenant les gens ont résumé ça beaucoup en disant la tech, théorie des espaces oui. courbes. Voilà. Donc finalement, on a les deux versions, quoi. La version longue et poétique, et la version synthétique et efficace.
Oui, puis c'est vrai qu'un monde rempli de courbes, ça évoque plus la douceur par rapport à un monde qui serait rempli de lignes droites et d'angles.
Bah c'est ça, ouais. Mm. Et puis en plus, on se trouve dans un espace d'exposition qui a été construit dans les années 1930.
Ah oui.
Et qui est lui justement extrêmement orthonormé, quoi. Donc il a une structure à la fois très simple, mais qui est un maillage, parce qu'il y a une grande verrière avec plein de petits carreaux, un maillage au sol également, parce que voilà, et puis donc c'est la white box, quoi, comme on dit, l'espace d'exposition neutre, voilà, le contenant de l'exposition. Et donc dans cet univers orthonormé, je me suis dit bah, que les artistes allaient amener leurs espaces courbes intérieurs.
Oui. Et donc, le thème de cette deuxième biennale, c'est « L'utopie change le monde ». Est-ce que tu penses que l'utopie peut le changer ? C'est de toi aussi ?
Oui. Mmh. Ben, il me semble que bon, le combat qui se mène ici, c'est de toute façon un combat utopique, puisque bon, j'ai décidé d'initier ce projet... qui a quand même des caractéristiques qui le rendent un peu spécifique. L'idée de ne pas être financé par l'argent public, l'idée aussi de ne pas faire de commerce sur le travail des artistes, et enfin l'idée qu'on doit pouvoir les accompagner dans leur démarche en s'appuyant de manière volontaire et participative uniquement sur les gens que ça intéresse. Et donc c'est notre public qui éventuellement, en adhérant à l'association Les Amis de la Tech, c'est notre public qui nous finance. Donc finalement, alors l'accueil est gratuit pour tous, évidemment, c'est notre souhait. L'ouverture sur tous les publics, et pas seulement des publics de spécialistes, mais aussi un mode de financement qui s'appuie sur simplement... l'idée de pouvoir faire exister et défendre l'existence d'espaces de liberté ouverts à tous. Ce qui est une manière d'inscrire l'art et la réflexion des artistes dans la vie du monde, quoi. Et donc, ça c'est quand même une grande utopie, à la base, que j'ai initiée de manière volontaire, hein, en investissant dans ce projet. Et puis en essayant de convaincre les gens voilà, que ça pouvait exister. Finalement, il se trouve que des gens ont répondu, je pense confortés aussi par la qualité des expositions qu'on proposait, parce que c'est quand même un point essentiel. Et quand on est arrivé au bout de 2 ans d'existence... ce qui était un peu un moment symbolique, parce qu'on me disait souvent il faut 2 ans pour qu'un lieu soit identifié, tout ça. On a eu envie de fêter ça en organisant une première biennale qui s'appelait 2 ans d'utopie, pour fêter le fait, d'être arrivé pendant 2 ans à proposer ça. Et puis, il se trouve que aujourd'hui on arrive à 4 ans d'existence. En ayant reçu des artistes magnifiques, plus ou moins connus, mais enfin en tout cas qui nous ont proposé des projets d'exposition très cohérents, variés, riches, intéressants. Et finalement, tout ça, c'est aussi une manière de changer le monde, parce que notre public s'est aperçu aussi qu'on pouvait rentrer dans un lieu de culture qui défendait des vrais... position d'artistes contemporains, donc des choses très actuelles et pour certains très en pointe, et que ils étaient à chaque fois surpris parce que la ligne éditoriale, c'est aussi la diversité. C'est aussi l'idée que la diversité des propositions artistiques crée la richesse, quoi, du paysage. Et donc, notre priorité au projet d'exposition s'avère finalement payante, puisque les gens répondent. Et tout ça, tout ce mécanisme qui s'est mis en place et qui fait que le public adhère à ce qu'on propose d'un point de vue artistique, mais il adhère aussi à la philosophie du projet, à l'idée qu'on peut avoir avec l'art un rapport plus simple, qu'on va rencontrer des gens sympas qui vont faire une médiation et qui nous permettront de comprendre mieux ce que peut-être on comprend pas au premier regard. L'idée que tout ça puisse se faire dans une petite ville où les gens finalement ont maintenant un outil culturel à leur disposition qui présente des choses de qualité. Et toutes ces valeurs-là, la proximité, la simplicité, en même temps l'exigence, dire que l'usage de la liberté, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour essayer d'enrichir aussi le paysage culturel. Eh bien, je pense que ça, c'est finalement une preuve que l'utopie change le monde, puisqu'elle change nos rapports entre public, artistes, structures d'exposition, et tout ça inscrit dans la vie de la cité.
Et donc la tech, en fait, elle permet aux artistes de penser grand.
Voilà, c'est exactement, ouais, c'est l'idée. Parce que bon, la condition d'artiste, c'est pour de nombreux artistes quand même la précarité, la difficulté de vivre de leur travail. Et bon, on peut constater dans de nombreux cas que ça a un côté un peu décourageant et que d'être pris par toutes sortes de contraintes auxquelles il faut répondre rapidement, le loyer, les charges qu'on n'arrive pas à payer des fois, ainsi de suite, ça amène les artistes à finalement petit à petit réduire leurs propres ambitions. Et nous, on défend l'idée à la tech que la chance des artistes, c'est au contraire de pouvoir nous épater par l'ampleur de leurs propositions, par la manière dont ils vont pouvoir nous attirer dans leur monde. Et puis voilà, cette manière de marquer les imaginations, c'est quelque chose qui va amener les gens peut-être à s'intéresser à d'autres aspects de leur travail et peut-être à le vendre plus facilement. Mais pour nous, ça commence par le projet d'exposition.
Oui, et quelque chose qui t'interpelle beaucoup, c'est l'importance, l'alternance entre le plein et le vide, les contraires en fait.
Oui, alors ça c'est ce sont des orientations de mon travail personnel là. Donc
d'accord.
On sort un tout petit peu du cadre de la tech, mais pas complètement puisque je suis l'artiste résident.
Oui.
Oui, en effet. Bon, je pense que le monde en effet est fait de contraires. Et que ces contraires doivent pouvoir cohabiter. Alors dans mon travail de sculpture, ça se traduit par le fait de... Moi, je suis toujours intéressé par l'économie de moyens, c'est-à-dire d'aller suggérer ce que j'ai envie de suggérer avec le minimum de matière, par exemple. Et donc ça veut dire évider beaucoup. Donc finalement, créer beaucoup de vide. Et on peut s'interroger à un moment donné sur l'existence même de la sculpture. Est-ce qu'elle est faite de vide ou est-ce qu'elle est faite de plein? Ou est-ce qu'elle est faite, évidemment, de l'équilibre entre l'un et l'autre? Et bon, c'est quelque chose, cette dualité, on la constate tout le temps dans tous les domaines, quoi. Et donc la recherche de l'équilibre fait partie de la voie de chacun.
Et puis souvent, les gens, en fait, le vide, c'est quelque chose d'angoissant, sont plus attirés par le plein, je suppose.
Ouais. Oui, non. J'ai fait une exposition cette année qui s'appelait Autour du vide, donc justement qui se proposait de parler du vide en sculpture. Et à travers la scénographie, à travers la logique de ce qui était présenté, finalement. On a pu se rendre compte qu'on pouvait, enfin en tout cas le public a pu se rendre compte qu'on pouvait investir un grand espace avec finalement peu de choses, au bout du compte, mais que ces choses pouvaient être vraiment nourrissantes. Nourrissantes pour l'esprit, nourrissantes pour les sens, évidemment. Et finalement, beaucoup de gens m'ont fait part, dans l'exposition, de leur sentiment d'apaisement, justement, face à un monde dans lequel on a une profusion de tout, une avalanche d'images, de sons, de sollicitations, de toutes sortes. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aspirent peut-être à revenir à des choses plus simples, et une certaine manière d'épurer aussi, dans laquelle le vide peut trouver une place.
Oui. Je pense que tout le monde a bien compris la philosophie de la tech, du coup. On va faire une petite pause musicale et puis ensuite on parlera plus précisément de la soirée de samedi du vernissage.
Ouais. Trop de chefs, pas assez d'indiens. Descendants de l'union des chevaux et du vent, enfants d'oiseaux enfuis de leur enfer doré, fils de Cain condamnés aux routes chaotantes, ou errants rejetons d'un forgeron rejeté. Tant de légendes imaginées à notre compte, racontards et ragots de comptoir sont légion. L'histoire a fait de nous d'éternels chercheurs, et tous les jours, les braves gens nous cherchent des histoires. Un jour on nous envie, vifs voyageurs divins, âmes aventurières sur les routes en nombre mythique. Le lendemain on nous craint, vils voleurs vauriens, nous sommes parqués, muselés, tels des ombres mutiques. Et les sévices du temps poursuivent les fils du vent, les portes se ferment, cette terre se pare de péages, courant d'air et courant d'art coulent dans nos veines. Avant l'oubli, gravons nos légendes du voyage. Chaque pas de danse nous place sur la trace des ancêtres. À chaque rengaine, la voix des anciens nous regagne. L'écho colporte les cohortes, l'antique anecdote. Contre l'armure de l'avenir, armons-nous de mémoire. Dans tout panorama, des ténèbres jusqu'au paradis, se dispersent les desperados de la diaspora. Nos parentés se perdent, parfois disparaissent. Au diapason s'expriment dépression et espoir. Ne dissipons pas les vestiges des décennies. Descendants, décidons de soutenir un souvenir. Un sentiment cimentant une nation essaimée. Nos racines se disséminent le long des sentiers. Héritiers itinérants de tous les territoires, rien ne nous retient, le trajet nous réunit. Mais les gadgets désirent nous freiner, nous contenir, nous enfermant dans leur reste de fond de terroir. Nous n'étions que le passage dans vos parages, mais l'avenir fait les yeux noirs mis à l'amande. Il n'existe pas de pays nomade, no man's land. Nous n'aurions en commun que le chemin des mortels. Enfants sauvages, nous n'écouterons jamais vos sages, jamais vos gardes ou vos gradés qui nous dévisagent, jamais, jamais vos briseurs de bonne aventure, ceux qui souhaitent nous stopper, saper, nous laisser passer. Sévissent sur les chemins qui mènent les Roms, dictate du visa, dictate du visage. Horizon divisé entre délit facile et délire de faciès. Voleur de soupe, grumeaux dans la soute. Gitan agité, gitan agité, gitan à jeter. Entité détestée, tant d'identité rejetée. Gitan d'idées reçues et entêtées. Où est-elle la bohème des poèmes de Baudelaire? Et les sévices du temps poursuivent les fils du vent. Les portes se ferment, cette terre se pare de péage. Courant d'air et courant d'art coulent dans nos veines. Avant l'oubli, gravons nos légendes du voyage. Un jour de nos destins ne resteront que des ruines. Les récits diront les méandres des vies passées. Les silhouettes s'étirant le long des pistes hostiles et les convois de caravanes rêvant du monde entier. L'histoire. L'histoire aura fait de nous d'éternels chercheurs. Tous les jours, les braves gens nous auront cherché des histoires. Tant de légendes imaginées à notre compte, racontins, ragots de comptoir seront légion. Errants rejetons d'un forgeron rejeté, fils de Cain condamné aux routes chaotantes, enfants d'oiseaux enfuis de leur enfer doré, ou simplement descendant de l'union des chevaux et du vent.
Vous êtes bien sur Radio Couleur Chartreuse et vous êtes en train d'écouter la matinale. Et on poursuit toujours avec François. Là, on va parler de samedi. Donc, c'est le vernissage. Alors d'abord, il y a à l'intérieur une expo-vente de soutien. C'est ça ?
Oui, alors bon, c'est sur ce format biennal, en fait, on a quelque chose qui est différent de ce qu'on fait habituellement, puisque quand les artistes exposent leur travail habituellement dans des expos individuelles ou d'ailleurs collectives, ils ont la possibilité de le vendre sans qu'on soit commissionné sur ces ventes. C'est pour eux, ça leur appartient. Sur ce format biennal, comme c'est un événement un peu exceptionnel, c'est aussi une manière d'essayer de créer un peu de moyens financiers pour l'association. Et donc, on a proposé aux artistes de reverser 25% du montant des ventes au profit de l'association, ce qui permet d'alimenter un fonds de roulement qui nous donne un peu d'autonomie. Voilà. Ça n'est valable que sur ces événements de biennale. Et puis, là, en l'occurrence, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les collectionneurs auxquels je m'adresse, puisqu'on reçoit quand même des artistes formidables, quoi, et que, à mon avis, il y a de bonnes affaires à faire.
Voilà. Donc oui, il y en a 5 d'artistes. Alors, on commence par le premier, Fred Calmé. Alors, c'est un peintre qui réfléchit, il nous fait réfléchir à l'entreprise. Anthropocène, alors qu'est-ce que c'est ?
Alors l'anthropocène, ça désigne finalement une nouvelle période de l'histoire qui est celle où l'homme a commencé à modifier, disons, son environnement. Mmh. Et bon, la présence de l'homme, on le constate bien, modifie profondément les choses. Avec évidemment des tas de préoccupations qui se greffent là-dessus. Bon, à commencer par le réchauffement climatique, hein, ouais. Dont on voit qu'il provoque des catastrophes et probablement de plus en plus. Mais aussi le nucléaire, mais aussi enfin bon, tous ces aspects-là. Et Fred nous convoque un petit peu par rapport à ces problématiques. Dans une peinture qui finalement nous propose des scènes assez énigmatiques avec des personnages avec des combinaisons comme s'ils étaient dans un contexte de radiation par exemple.
Ah oui.
Des choses comme ça dont on sait pas très bien ce qu'ils font, quelle est leur activité, enfin donc c'est ce sont des peintures qui convoque la réflexion. On sait pas très bien ce qui se passe et en même temps ça peut pas faire autrement que nous interroger. Donc c'était une approche qui moi me semblait vraiment forte pour sensibiliser les gens aussi à ce genre de problématique et en tout cas montrer le travail d'un artiste qui lui réfléchit à ça et donc essaie de nous proposer des pistes de réflexion, peut-être.
Et en parlant d'armes, il y aura aussi Léa Le Briconte. Alors elle, c'est une plasticienne qui détourne justement l'armement comme création et questionnement.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc Léa, c'est une artiste qui a un travail qui est vraiment un travail intellectuel à la base, hein, qui se propose de réfléchir justement... Alors à différents sujets, hein, mais elle s'intéresse à des problématiques très variées qui vont de la culture traditionnelle tibétaine à des interventions sur des champs de bataille directement. Actuellement, elle mène des travaux à Verdun, par exemple. Et donc, à travers ses créations, elle s'intéresse également aux Amérindiens, aux Indiens d'Amazonie. Elle établit des passerelles entre tous ces symboles qui sont des symboles liés à la guerre. Et en même temps, avec d'autres aspects de l'humanité, et souvent dans ces créations, les deux se rejoignent. Et tout ça, évidemment, avec l'idée de la suggestion, c'est-à-dire qu'elle est, elle est pas directive dans son message.
Oui.
Mais par contre, ces pièces nous interpellent parce que souvent, justement, elles sont porteuses de dualités où se rencontrent vraiment des choses très très différentes. Prends un exemple, elle a elle présente par exemple des pièces qui s'appellent Guerre de tribus. Dans lesquelles elle utilise des obus ou des roquettes, mais en même temps des parures avec des plumes, des choses, des perles, des choses comme ça, qui sont propres justement aussi à ces populations amérindiennes ou d'Indiens d'Amazonie. Et donc elle fait des espèces de grands écarts comme ça entre des choses extrêmement différentes et toute cette technologie de l'armement, quoi.
Il y aura aussi Roland Melan, qui est sculpteur et qui protège et enferme le bois dans une carapace de métal.
Oui, c'est ça. Ouais. Roland, il a une approche très, très particulière. Il fait ça depuis toujours. Donc, il exerce en sculpture, mais aussi beaucoup en meubles d'artiste. Et pratiquement toujours, il a cette approche de finalement sculpter le bois, de créer des formes, souvent des formes assez incroyables, mais de les revêtir, de les recouvrir systématiquement d'une carapace métallique. Alors évidemment, on peut s'interroger sur sa démarche. Hein, il nous propose pas forcément les raisons qui le poussent à faire ça. Par contre, c'est assez saisissant de voir ces formes souvent très très évolutives, assez curvilignes, des volumes assez riches et d'avoir ces traitements métalliques très particuliers qui sont souvent faits de petites pièces qui se raccordent, qui font comme une sorte de jeu d'écailles. Et avec des traitements de finition qui lui sont propres et qui amènent des choses tout à fait surprenantes. Donc bon, souvent il recouvre ses parties métalliques avec des films de peinture successifs, par exemple, puis qui reponcent et qui repolient ou apparaissent des dégradés. Et sur tous ces ensembles de surfaces, ça crée des choses qui sont tout à fait caractéristiques de son travail.
Oui, à voir. Et il y aura aussi Franco Salas Borges, qui est peintre chilien et qui magnifie la fureur de l'océan sous quelle forme? C'est des tableaux?
Alors c'est de la peinture, oui. Donc Franco est chilien, il est né sur une île et donc il a évidemment une culture de l'océan. Et à travers ses peintures, il nous montre plus spécifiquement la fureur de l'océan, quoi. Et donc, ce sont souvent de grands formats. Là, dans l'exposition, on va avoir un grand diptyque, et puis une huile qui est un tondeau. En fait, c'est une toile circulaire. Et ce sont des choses qui sont assez fortes, quoi. Parce que dans ces grands formats, d'un coup, on se trouve en effet confronté à la fureur de l'océan, ce qui est assez amusant et paradoxal en étant plutôt à la montagne.
Voilà. Oui, mais la montagne et l'océan, moi je trouve ça a le même écho un petit peu.
Si on peut amener l'océan à Voiron.
Et il y aura aussi François Veil, qui est un sculpteur magicien et qui fait danser la roche.
Ouais, c'est ça. François Veil, c'est un artiste très très connu, hein, qui exerce beaucoup dans des grands symposiums internationaux. Et la caractéristique de son travail, c'est cette envie de mettre en mouvement des blocs de rochers qui sont souvent assez énormes, alors qu'il va choisir dans le monde entier, hein, et bon, qu'il assemble, qu'il unit, soit à travers des dispositifs d'articulation, c'est-à-dire qu'il leur donne la possibilité de tourner les uns par rapport aux autres, par exemple, ou avec des fois des dispositifs de suspension, donc avec des ressorts, par exemple, où il superpose des blocs de taille assez imposante. Et quand on les met en mouvement, si on leur impulse quelque chose, eh bien, ces roches se mettent à bouger, à parcourir l'espace, parfois au gré des sculptures, à accomplir de véritables chorégraphies, et avec ce côté quand même très surprenant d'avoir ces blocs de pierre qui se mettent à se promener dans l'espace, quoi.
Et puis, il y aura le nouveau mur street art. Alors là, c'est Igor Boydora. C'est un street artiste qui va revisiter radicalement le mur extérieur.
Ouais, c'est ça. Donc, pour la première biennale, en fait, on avait décidé d'investir une des façades avec une proposition de street art. Parce que, bon, c'est un domaine de l'art qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et dans lequel on constate que, on est loin maintenant de, je veux dire, il y a toujours des trucs qui ressemblent à des dégradations, quoi, du truc un peu sauvage et ainsi de suite. Et en même temps, on voit aussi que, il y a quand même de nombreux artistes qui développent un style de plus en plus personnel et dans des réalisations qui sont parfois vraiment soignées, quoi. Et donc on souhaitait pouvoir s'intéresser à cette spécialité en respectant sa dimension éphémère, mais en ayant quand même la volonté de défendre un travail pendant 2 ans. Mmh. Voilà, ce qui laisse, on sait que ça disparaîtra, mais en même temps c'est quand même à la disposition du public pendant 2 ans. Et donc, arrivant à la deuxième biennale, on a lancé un appel à projet pour renouveler cette proposition. Donc la première avait été réalisée par Mario Burtin, qui est un jeune artiste qui est depuis plusieurs mois au Pérou, là, où il travaille beaucoup avec les populations locales. Et suite à cet appel à projet, pour lequel on a reçu une trentaine de propositions, on a choisi la proposition d'Igor Boydora, qui est en effet radicalement différente. Oui. Et donc notre public va pouvoir apprécier pendant 2 ans une nouvelle version, quoi, un nouveau regard d'artiste.
Et donc ça, ce sera la surprise lors du vernissage, je rappelle, samedi à 18h. On verra le mur tout de suite
ou... Non, on le verra pas tout de suite. En fait, on ouvre les portes à 18h, donc les gens vont avoir la possibilité de découvrir l'exposition. Vers 19h, il y aura une partie d'allocution pour expliquer un petit peu où nous en sommes dans notre projet et présenter l'exposition. Et puis, un petit peu plus tard, vers 19h15, 19h30, on va donc découvrir cette proposition d'Igor, qui est pour l'instant masquée par une bâche qu'on a fait imprimer et qui est dans des dimensions de 6 mètres par 6. Donc on va faire tomber ça et les gens pourront découvrir ce travail.
Oui, il y aura aussi possibilité de restauration, buvette avec tenue par Anamunto.
Oui, c'est ça. Donc l'association Anamunto, oui, qui fête ses 20 ans et qui organise le col des 1000. Et donc ils ont des compétences, ce sont mes voisins en fait, et donc ils sont habitués à proposer de la restauration. Donc en fait on va avoir un dispositif un tout petit peu différent de ce qu'on fait habituellement, parce qu'il y a des conditions de vigipirate qui nous obligent à déporter un tout petit peu en fait cette partie où on va proposer de la restauration. Et proposer de la restauration parce que un peu plus tard dans la soirée, on aura donc un concert dans le...
Oui, le groupe Totem.
Totem, c'est oui, ça. C'est donc Bastien Maupomé, que les gens qui s'intéressent au slam et à la poésie connaissent bien dans la région. Et puis qui s'est associé avec Erwan Flagel, qui est un musicien très, très intéressant, qui développe des atmosphères musicales tout à fait adaptées à l'univers de mots de Bastien Maupomé.
Oui, bah en fait c'est le morceau qu'on a passé là pendant la
pause. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est Légende du voyage. Donc, j'ai proposé aussi à notre public que Totem puisse les emmener un peu en voyage.
Voilà. Et ben merci François pour tous ces renseignements.
Ben, donc, merci de m'avoir reçu. Ouais.
Rendez-vous à tous pour le vernissage samedi 23 septembre à 18h à Voiron, au 13 avenue Gambetta. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment.
C'est ça. C'est la sortie de Voiron en direction de Chambéry.
Voilà, une occasion exceptionnelle. Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.